Je te remercie beaucoup, Gilles, de faire une entrevue et puis pour le WASC, en même temps pour partager ses expériences et souvenirs. On va, pour introduire un petit peu, Gilles, en plus d'être mon cousin, a commencé karaté ça fait longtemps. Et puis moi, quand j'ai débuté, je pense que j'avais à peu près 12 ans, et puis j'avais fait mon premier cours de karaté à la polyvalente Saint-Jérôme, puis Gilles avait été mon premier instructeur, dans le fond. Puis après ça, le reste, c'est de l'histoire. Alors, je vais le laisser parler. Alors, c'est ses expériences à lui. Alors, bonjour.
Bonjour.
Et puis, pour commencer, j'aimerais ça savoir quand tu as commencé et où et puis pourquoi.
Avant de karaté avec Isataka, j'avais commencé à faire du judo par moi-même avec le petit livre de Louis Robert. Et comme il n'y avait pas d'école de judo puis de karaté dans le coin, mais on a appris par nous autres mêmes. C'était plus long, mais quand c'était appris, c'était appris. Puis par la suite, en 69, au cégep Saint-Jérôme, j'ai eu la chance d'avoir Isataka en 69, 70, 71. Ça fait que là, c'était un grand pas en avant, puis c'était à l'âge où il avait dépassé à peine 30 ans, il était au maximum de sa forme. C'était de toute beauté de voir aller, point de vue technique. Là.
Alors, Sensei Isataka, il avait une trentaine d'années. Ouais. C'est ça. Puis toi, t'avais quel âge?
J'avais 19-20
ans. 19-20
ans. Puis, ce qui était intéressant au cégep, c'est que tous les élèves avaient 19-20 ans. C'est que c'était beaucoup plus simple pour l'instructeur, parce qu'il n'y avait pas de jeunes, de plus vieux, c'était tout du monde en forme. Ça fait que ça, c'était agréable de s'entraîner avec du monde de notre âge, qui voulait tout, puis qui apprenait vite, parce que rendu au cégep, ça fait longtemps que tu étais habitué de travailler intellectuellement, donc tu apprenais les katas, c'était assez rapide, et c'était bien agréable.
Puis, est-ce que tu te rappelles de certains karatékas, certains élèves qui, à l'époque?
Oui, tu avais James Bourgeois, qui était vraiment bien, James, dans le temps. Il y avait Lise Dion, Mario... pas Lise Dion. Lise Morin, excusez. Mario Morin, tout ça, on pratiquait ensemble. On avait beaucoup de plaisir. C'est surtout avec eux autres que je m'entraînais.
Super. Puis les cours dans ce temps-là, excuse, si tu peux parler un peu le contenu du cours en général, comment ça commençait avec un échauffement, j'imagine, et puis...
Oui, on commençait toujours avec un échauffement qui était semblable. Pas trop long, parce qu'il accepte plus sur la technique. On faisait toujours, à chaque cours, toutes les techniques de base. Chaque cours, on faisait beaucoup de déplacements. Ça, c'était invariable. Après, selon ce qu'on avait à apprendre, c'était soit des katas, des kumités ou des combats, des techniques de combat. Mais avant même que le prof arrive, Sensei Isataka, on faisait du makiwara. Et à la fin aussi, parce que dans ce temps-là, les bogus, c'était en fibre de verre. Et on n'avait le droit à aucune protection pour les pieds et les poings. C'est-à-dire qu'on devait absolument s'endurcir un peu les jointures. Ou le fait de faire du makiwara, c'est plus d'avoir la bonne technique quand le poing arrive sur quelque chose de dur. C'est ça tout ça. Et que ça, c'était à peu près invariable. Et on faisait aussi du judo avec Isataka, il aimait bien ça. Ishino venait beaucoup moins souvent, je l'aimais bien Ishino, mais c'était, comment je pourrais définir ça, dans le temps on disait une force brute, là, c'était un peu ça. Isataka c'était la finesse, il se déplaçait, il flottait sur le plancher, c'était de toute beauté à voir. Et comme il ne parlait pas français, peut-être un peu anglais, j'ai développé l'observation. À En fait, maintenant, quand je regarde une vidéo, je la regarde avec le son, puis j'arrête le son et je regarde si les mêmes déplacements, les mêmes commentaires, voir si ça fit ensemble. J'ai toujours gardé ça. Et l'observation est bien importante.
Alors, Sensei Shino, c'est intéressant qu'il allait des fois aider à donner un cours ou il donnait le cours lui-même?
Il donnait le cours lui-même, il remplaçait. Quand les attaquants ne pouvaient pas venir, c'est Shino qui venait.
Okay.
Je me souviens d'une anecdote. On ne connaissait pas beaucoup l'histoire du Japon et il voulait nous montrer le sumo. Et il nous avait fait un grand cercle autour imaginaire. Puis là, il nous disait que il fallait sortir l'autre du cercle ou le jeter à terre. Fait que là, il me fait venir. Fait que je me prends contre lui, mais lui, il ne savait pas que j'avais fait du judo. Là, c'est moi qui l'ai mis à terre. Hop! Il n'a pas aimé ça. Il a recommencé. La fois suivante, c'est moi qui étais à terre. J'avais trouvé ça bien drôle.
C'est intéressant parce que si on regarde l'histoire du Kenkokan, Shonju Kenkokan, c'est sûr que Dr. Cory Zataka, sa formation était aussi très profonde en judo. Fait que, et puis Sensei Masayuki était aussi cinquième dan en judo. Alors, je pense que c'est normal que le judo est une partie importante du Shonjuryu. Mais c'est le fun à entendre, de voir que Sensei Ishino allait donner des remplacés à Sensei Zataka au cégep de Saint-Jérôme. Oui, je me rappelle les bougou, cette affaire-là. Vous faisiez, quand vous faisiez les techniques de base, est-ce que vous les faisiez dans le bougou?
Toujours juste avant les compétitions. À part ça, on faisait pas trop de bougou parce que c'est assez dur, hein? Mais le bombage, c'était pas trop pire. C'est quand on prenait les fioritures en haut. Mm-hmm. Et ça, si l'autre tournait et on accrochait juste le bord, la peau partait, c'était... Mm-hmm. Moi, quand la première compétition que j'ai faite à Loyola, j'ai fait 8 combats. J'ai perdu en finale. Quand j'ai vu les premiers combats de ceinture blanche, et le monde sortait avec les jointures en sang, j'ai dit, ouais, je vais utiliser mes pieds. J'ai appris à utiliser mes pieds. C'est avec ça que je gagnais le plus souvent.
C'était quoi ta technique favorite?
Le yokogiri. Même qu'à un moment donné, j'ai jamais entendu Ishino faire le compliment, mais un moment donné, il m'avait dit, ton yokogiri est aussi bon que le mien. Et moi, là, j'en ai encore des frissons quand il pensait, quand il m'a dit ça. C'était un compliment bien spécial.
Là. Wow! Ben moi, je me suis entraîné avec Sensei Shino longtemps à Montréal, puis il m'a jamais dit ça.
C'est bon.
Ouais, je pratique plus. Super le fun. Et puis, tu étais quelle ceinture à l'époque quand il a dit ça?
J'étais ceinture sûrement deuxième au premier Q. Là. Je devais être brune, effectivement.
Ah, OK. Et puis, compétition, t'en as fait beaucoup, j'imagine, à l'époque?
De ceinture blanche jusqu'à premier Q, avant d'en faire avec toi, toutes les compétitions que j'ai faites, je suis toujours arrivé premier en kata. Quand il y avait des compétitions de kumité, je suis toujours arrivé premier. Et en combat, j'ai perdu un combat, le 8e, ceinture blanche. Les autres, je les ai tous gagnés. J'ai jamais perdu un combat.
Wow! C'est impressionnant quand même.
Oui, mais le niveau n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ça fait que...
Oui, mais quand même.
Je commence avec un grain de sel.
Alors, comment de compétition à peu près tu penses que tu as fait de ceinture blanche à brune?
Oh, boy! Comment j'ai pu faire de compétition... Une quinzaine au moins.
Wow.
C'est difficile, là. Remonte loin. Hein?
Oui, oui. Quand même impressionnant, là. Tu sais, au même 15 compétitions. Puis en kata, en kumité et en koba, arrivé premier tout le temps, c'est quand même très impressionnant.
Ce que je comprenais pas, c'est que mes adversaires voyaient ce que je faisais. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'ils se rendent pas compte de ce que je fais? Pour gagner, c'est pas compliqué. Les deux premiers yokoguri que je donnais, je n'allais pas loin. Le troisième, ils pensaient que je n'irais pas loin, mais là, j'allais chercher. C'était pas compliqué. Je disais, non, comment ça se fait qu'ils ne voient pas? Mais bon. C'était chanceux.
Non, c'était un bon yokogiri. Et après ça, bien, à part de yokogiri, est-ce qu'il y avait d'autres techniques?
Oui, des marashigiri sur le côté, avec la pointe du pied. Jamais j'ai fait la même chose que toi. Quand je t'ai vu faire avec le dessus du pied. Là. Ah, j'ai essayé rentrer à la maison, puis j'ai essayé juste un coup.
Ouais, je crois que j'étais chanceux, mais... oui, c'était en fait, effectivement les protections, c'est les protections de pour ceux qui sont au courant qui utilisent en kendo. Alors c'était très très dur, mais j'étais chanceux, j'imagine. Ben je pratiquais beaucoup avec les marashigiri avec le dessus du pied, fait que je me suis comme habitué. Mais ouais. Et puis dans ton kata, c'était quoi ton kata préféré?
Le kata que j'ai toujours préféré, c'est Apikan. Mm-hmm. C'est vraiment lui, c'est moi. Ça me représente le mieux, peut-être dans mes techniques aussi. Ouais. Ouais. Même si ceinture noire, j'ai fait que Kushikosoku, et ça a bien été, mais c'est Apikan que je préfère beaucoup.
Le kumite, c'est lequel tu faisais?
Ben, le kumite, on a fait quelques compétitions. En parlant de kumite, une fois, j'ai fait un kumite, je crois que c'est Sankaktobi, avec Sensei Isataka, puis je me suis trompé. On l'a recommencé un à la suite de l'autre une dizaine de fois. Il n'avait pas aimé ça. Mais dans ce temps-là, on se trompait jamais. Mais on était jeunes et c'est ça. On était habitués à apprendre. Ça fait que c'est pas comme quand on a... 72 ans, là, c'est plus difficile un peu.
On les répétait souvent. Puis combien de kata que vous pratiquiez à l'époque?
On changeait de kata pour chaque ceinture. C'est que il y a des kata que j'ai pas vraiment refaites, comme Sanshin. Je le comprenais pas quand j'étais ceinture verte. Ah, c'est ça, ce kata-là, mais je le comprenais pas. Puis comme il parlait pas français, puis peut-être un peu anglais, mais en tout cas, il s'essayait pas, je comprenais pas le kata de respiration. Mais là, on comprend avec l'expérience qu'on a, hein, c'est sûr. Mais on avait peut-être une dizaine de kata en tout. Là. Mais il n'y avait pas de kata arme, vraiment. Il y avait le beau qu'on faisait un peu, c'est tout. Même pas les serres, rien de tout ça.
OK. Alors, faisiez, si essayez de voir, là, pour faisiez, bon, Katana Hanshin.
Oui.
Katana Nijushio.
Nijushio, Apikan, Sankaktobi, Sessan. Quel qu'on faisait pour ça. Assez, ça remonte loin, là. Il y en a que j'ai pas repratiqué depuis ce temps-là. Hein.
Basai, peut-être?
Basai, ben, c'était pour les ceintures noires, ça.
Okay.
C'était plus ça. Je l'ai vu. Ah oui, Eyan Kata. Oui, hein,
ouais, c'est ça. Ouais, oui. Ouais.
Puis tu vois, dans ce temps-là, en parlant d'Eyan Kata, c'est parce que c'était surtout les filles qui faisaient ça. Les femmes n'avaient pas de droit de combat. Il n'y avait pas de compétition de combat pour les filles. Puis c'est juste les gars.
Ouais,
un peu sexiste, mais bon.
Ben, écoute, dans le temps des Chino, moi, je me rappelle, Sensei Chino, j'allais à Montréal, à l'Ukdokan, puis il enseignait pas aux enfants, puis il enseignait pas aux femmes non plus. Alors, ben là, ben, encore là, on vient, comme tu dis. Mais aussi, le karaté, c'est on monte dans ce temps-là, tu savais, c'était surtout axé pour les adultes.
Ouais.
C'est complètement différent d'aujourd'hui, où ce que... C'est plus les enfants. Dans ce temps-là, c'était presque c'est presque rien des adultes. Beaucoup, beaucoup. Fait que, wow. Et puis, dans les...
C'est vrai, tu me parlais de ceux que je me souviens bien. Là, c'est Giac. Il était important, Giac. C'est lui qui était le ciment autour du club le soir. Il était ceinture brune dans le temps. Et... il ne voulait pas passer sa ceinture. Les attaquants faisaient tout pour lui dire « Tu vas passer. » Il oubliait son karaté-gi. À un moment donné, à une compétition, il n'avait pas son karaté-gi. Maintenant, il y a quelqu'un qui en a prêté un, puis il a fait un kata, puis il a donné sa ceinture noire. Il ne voulait pas être ceinture noire.
Saint-Cyr-Giac, c'était. Après ça, c'était un. Quand je commençais sérieusement, c'était mon Saint-Cyr à Saint-Jérôme. C'est lui qui. Quand j'ai passé ma ceinture noire, ben, je m'entraînais aussi avec Saint-Cyr Chenot. Mais ouais, Saint-Cyr-Giac, effectivement, c'était. Avec lui que j'ai passé ma première ceinture noire. Et il a entraîné quand même. Oui, c'est une partie importante de l'histoire du Saint-Jérôme au Québec et au Canada parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ceintures noires qui sont sorties de là, des bonnes ceintures noires. Donc, Philippe Nadeau, André Racine, Gilles Dufour, Pierre Dallagnello, juste en nommer quelques-uns là, que vite fait, parce qu'encore là, on remonte loin. Mais oui, un super bon professeur.
Dans ce temps-là, pendant que je pense, on passait jamais d'examen pour passer de ceinture. Quand on était prêt, on nous donnait la ceinture. C'est souvent en revenant d'une compétition. Je me souviens, on revenait d'une compétition, puis hop, là, on montait de ceinture, et c'était comme ça.
Ben, c'était basé un peu sur le principe du judo. En judo, un peu comme ça, dans le fond, en tout cas, dans ce temps-là surtout, c'est que tu fais des compétitions, puis si tu gagnes la compétition, ça te donne tant de points. Alors, si tu tombes tant de combats, ben, tu peux monter de ceinture automatiquement parce que tu as accumulé beaucoup de points. Fait que je me rappelle, nous aussi, c'était la même chose quand dans les débuts des années 70. Ben, en fait, jusque dans les fins des années 70, on n'avait pas d'examen non plus. On allait d'une compétition, puis il fallait gagner. Puis quand tu commençais à gagner à ton niveau, c'était tes ceintures rondes, ben là, il dit, OK, ben là, c'est parce que tu es prêt à monter ceinture verte. Chose comme ça. Fait que, ouais, effectivement, je me rappelle de ça. Wow! Et puis, oui?
Les attaquants m'avaient bien surpris quand j'ai passé ma première ceinture, parce que c'était une compétition internationale à Loyola, ceinture blanche. Quand on est revenu, ils donnaient des ceintures jaunes à tout le monde. Ils arrivent à moi, pas de ceinture jaune. Ils m'ont donné tout de suite une ceinture orange. Puis, voyons, on ne peut pas passer par-dessus une ceinture. Mais oui, passer par-dessus, j'ai jamais eu de ceinture jaune. C'était direct ceinture orange.
Ah, ben c'est bon signe, ça.
Ouais, c'est...
Et puis, qu'est-ce qui est arrivé pour... Parce que je me rappelle que tu m'en avais déjà parlé, mais je veux que tu t'en parles. Pour de la ceinture noire.
Oui. Je ne voulais pas passer.
C'est ce que je me rappelle.
Quand tu m'as dit, écoute, là, tu as parti Gilles Labelle, qui était ceinture blanche, toi, tu étais ceinture brune, il ne peut pas passer sa ceinture noire avant toi. J'ai dit, ouais, ça a bien du bon sens, là. Je m'en passe. Puis, comme aujourd'hui, les jeunes qui vont passer de ceinture noire sont préparés, ils savent exactement ce qu'ils ont qu'il va y avoir comme demande et tout ça. Moi, je ne savais pas du tout. Je ne suis pas sûr que toi, tu savais non plus. Ça fait que ça a duré pas mal longtemps. Puis, le lendemain, j'avais une compétition. Je me souviens que ma femme n'était pas très contente de tout ça parce que quand je suis arrivé le soir, j'étais brûlé, surtout après le saké. Et là, j'ai eu des crampes dans la nuit, dans les jambes. Ça fait que je dis, hop, c'est une compétition le lendemain. Donc, ça a bien été la compétition.
T'étais relax. Mais pour revenir en arrière un peu, moi, je parlais, quand tu étais avec Sensi Zataka, tu t'es rendu à la ceinture deuxième brune.
J'étais deuxième brune, c'est ça. Et j'ai pas passé parce que là, je m'en allais à l'université. Puis là, je me disais, hey, je suis le premier dans la famille à aller à l'université. C'est que je vais me consacrer vraiment à ça, point. Et j'avais dû continuer à faire le karaté. C'était pas si compliqué à l'université. On s'en faisait beaucoup, mais bon, quand tu connais pas quelque chose, en tout cas, je me suis donné à plein en université, puis ça a bien été, mais j'aurais pu continuer le karaté.
Alors, pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tu t'as fait ton karaté pendant les années du cégep, et puis quand tu t'es en allé à Montréal, où est-ce que Masayuki Zataka, Sensei, enseignait. C'est là que tu as arrêté. Ouais. Tu t'entraînes avec lui quand il déplaçait à Saint-Jérôme, mais quand tu étais chez lui à Montréal, c'est parce qu'il enseignait, je pense, à McGill, puis à un autre endroit, là, je ne me rappelle plus.
C'est le coin, c'est ça que c'est.
Ouais. Okay. Et puis, pendant tes années universitaires, c'est là que tu as pris, dans le fond, un break en karaté. Puis là, pour expliquer, parce que quand on parlait de ta ceinture noire, c'est que ben moi, je suis parti, on s'entraînait avant que je parte pour le Japon, on s'entraînait ensemble, t'avais recommencé à t'entraîner. Et puis, par contre, j'avais au pouvoir d'école encore. Et puis, quand je suis revenu du Japon en 1981, c'est là que j'ai ouvert le Shonjuru Shindo, parce que c'est mon école. Et puis, c'est là que Saint-Gilles est venu m'aider à enseigner. Et puis, il est devenu la première ceinture noire des écoles. Maintenant, on en a 400, mais dans les écoles Shonju Shindo. Et puis, c'est ça qu'on parlait, ben c'était le premier examen, fait qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre, parce que c'était le premier, mais ça avait super bien été. Puis, mais c'était intéressant que mon premier professeur, dans le fond, mon premier cours de karaté, ben est devenu ma première ceinture noire.
Comme je ne savais pas ce que tu demanderais, ben moi, j'allais à fond à chaque technique. En vrai, sûr que ça allait durer 2 heures et quelques, j'aurais peut-être été modéré un petit peu au début. Puis, si on reprend le cégep à Saint-Jérôme, l'école gagnait toujours toutes dans les compétitions. L'école de Saint-Jérôme, comment ça s'appelait, je me souviens plus, le club, gagnait toujours tout. C'était incroyable à comparer des autres à Montréal, puis tout ça. Là, on gagnait tout le temps, tout.
Ça s'appelait-tu le Busekan? Parce que je sais, quand moi j'ai commencé, il avait gardé le nom. Oui, Busekan, oui. OK. C'est alors, Saint-Sigiac a pris l'école de Saint-Sigiac-Ataka, parce que Saint-Sigiac-Ataka est parti en 1973, je pense, qu'il est retourné au Japon. Alors, fait que le Busekan, oui, c'était le nom de. Ouais. Je me rappelle, c'est sur ma carte. On avait une carte de membre à l'époque, une carte de membre de l'école de karaté. Puis, le nom dessus, c'était Busekan. Et puis, wow. Et Sensei Zaraka, il était comment comme professeur?
Je l'ai jamais vu fâché. Jamais. Mais il imposait le respect par son attitude. Il était toujours calme. Ishino, il imposait parce que, bon, il avait de l'air d'un tueur, quasiment. Il n'y a personne qui aurait osé lever le petit doigt contre lui. Mais il était bien gentil, il ne nous a jamais rien fait. Mais on le regardait, les techniques quand il frappait, là, ça, c'était toujours avec beaucoup de force, tandis que Isataka, c'était, je dirais, plus efficace, mais en finesse. C'était curieux de voir les deux côtés bien différents. Mais écoute, Isataka, il montrait, il nous enseignait, puis on suivait ce qu'il nous disait en observation, parce qu'il ne parlait pas. Même qu'il m'appelait Gilles Piche ou Gilles Piché, parce que je ne savais pas qu'il y avait un M. Je trouvais ça drôle, je ne l'ai jamais dit. Mais oui, c'est ça, il imposait beaucoup par, comment je pourrais dire, par son attitude, en plein ça. Il était toujours respectueux, toujours de bonne humeur, tout. Puis personne n'aurait pensé, on avait du plaisir quand même, là. C'était pas l'armée, là. Mais on écoutait.
Puis dans les cours, est-ce qu'il il démontrait toujours, j'imagine, les techniques de base et les katas en avant?
Toutes les techniques de base, il faisait tout. Il faisait exactement la même chose que nous autres, en avant, tout. C'était facile, on le regardait, on avait l'exemple devant nous autres, tout. Là, c'était vraiment... moi, j'ai adoré ça. Surtout que j'en rêvais, je pensais jamais un jour que je ferais du karaté. Il n'y avait pas d'école de karaté nulle part. Hein.
Est-ce qu'il faisait les échauffements aussi?
Ah, il faisait les échauffements. Il faisait tout, exactement comme nous autres, sauf que quand on s'entraînait, là, il passait manière pour nous corriger, là. Mais tout le reste, il faisait tout.
Est-ce qu'il faisait du combat avec vous autres aussi?
Pas beaucoup. Parce que, bon, on avait une espèce de blocage face à lui. Tu sais, dans notre tête, il était tellement bon qu'on n'aurait jamais rien fait contre lui. Là. Pas parce qu'on n'aurait pas été capable. Je pense pas qu'on aurait été capable, mais je veux dire, dans notre tête, là, il était tellement haut qu'on n'aurait pas été capable. Mais non, on ne faisait pas vraiment beaucoup de combats avec lui. C'était plus entre nous autres. Il nous montrait comment, tout ça, mais pas vraiment. J'ai jamais essayé. J'ai juste fait des cumulés avec lui, puis il me trompé une fois, puis je m'en souviens encore.
Et qu'est-ce qu'il avait fait quand il s'est trompé?
Hein? Il n'a rien dit. Je vous dis, on recommence, mais à la fin du cumulé, on le recommençait tout de suite. On le recommençait tout de suite. Et après 15 fois, là, je m'en souviens encore.
Oh, c'est bon, ça.
C'est juste drôle, mais je ne l'ai jamais vu fâcher.
Non,
jamais.
Pas d'anecdote, rien avec personne ou des gens qui auraient manqué de respect ou...
Je me souviens d'une connaissance avec Ishino. Bon. Ishino passait, puis il frappait un peu dans le ventre, voir si on était Kimé. Et lui, c'est un joueur de hockey, ça fait qu'il a su le coup, puis un petit sourire, puis Ishino était à côté. Puis il est revenu, il l'a frappé, il était étouffé. Il n'avait pas aimé son petit sourire.
Ouais.
Mais ça, c'est les seules choses... un peu plus négatif, je peux dire.
C'est tout du positif.
On n'était pas malin, personne. Ça fait qu'on en mangeait tellement que...
C'est le fun. Comment il y avait de monde qui s'entraînait à peu près par cours?
Ben, c'était des cours... Moi, j'ai suivi les cours. C'était des cours d'éducation physique. C'est pour ça que j'ai connu ma femme là. Parce qu'elle était infirmière. C'est le seul cours qui allait avec ses stages. Finalement, je l'ai connu. Mais on était peut-être une vingtaine à peu près. Là. Mais le soir, là, c'était ceux qui voulaient vraiment pousser plus loin. Là, c'était pas les cours d'éducation. C'était vraiment avec les attaquants, puis GIAP, et tout ça. Là. Mais alors, moi, j'ai adoré ce temps-là.
Ah, puis un fait intéressant, c'est que Francine, ton épouse, elle, elle faisait du karaté aussi à l'époque.
Ah oui, c'est dans la ceinture verte.
C'est bon, c'est bon.
Mais quand je m'entraîne en bas, si je veux savoir la vérité sur quelque chose, je demande à ma femme, elle va me dire ce qu'elle pense, pour le vrai.
Oui, sont nos meilleurs critiques.
Oh oui.
Alors ça, si maintenant on monte dans le temps un peu, alors on parlait des années 69 et 71, mettons. Et puis après ça, ben là, on revient quand tu as finalement recommencé le karaté à temps plein, si on veut, dans les années 81. Et puis là, bon, tu as passé ton examen. Alors, tu as recommencé la compétition aussi à cette époque-là, dans les ceintures noires.
Oui.
Et alors, à ce moment-là, les compétitions étaient différentes. On s'entraînait, c'était plus les protections de kendo, mais c'était du kushiki.
Oui.
Comment tu vois ça, ou c'était quoi la différence pour toi, ou...
La plus grosse différence, bon, à part que maintenant les bokus sont rembourrés, puis c'est vraiment agréable, si on peut dire, frapper dessus. Anciennement, on n'avait pas le droit de frapper à la figure, parce qu'on n'avait pas de protection. C'était juste sur le bogu de kendo. Quand je suis arrivé avec... le koshki, ben là, on avait le droit de frapper à figure. J'étais un peu dérouté à ça. J'étais pas habitué. Et avec Izataka, on n'a jamais développé le mawashigiri avec la jambe avant. C'est avec toi que j'ai appris ça, mais il était tard un peu. Il commençait à être plus vieux un peu. J'ai jamais réussi à avoir le genou assez flexible et les hanches pour vraiment bien utiliser... cette technique qui fonctionne bien, parce que la jambe avant, c'est rapide, tout ça. Mais oui, c'était une grosse différence, frapper la figure, là, on n'était pas habitué à ça. Là. Mais bon, on s'habitue quand même un peu.
Oui, ben, tu t'es bien habitué parce que tu as quand même gagné plusieurs compétitions à l'époque, quand tu es venu dans les ceintures noires. Mm-hmm. OK, alors, est-ce qu'il y a une compétition que tu te rappelles plus qu'une autre? Ou?
Bon, ben celle que je me souviens le plus, c'est quand j'avais gagné le championnat de ceinture noire, là, championnat du Québec. Bon, c'est bien que c'est pas toutes les ceintures noires qui étaient là, mais j'avais fini en finale. J'avais remporté après plusieurs extensions. Et le plus curieux dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, dans le combat, on n'arrêtait pas de faire des extensions parce qu'on n'arrivait pas à faire de points. Et à un moment donné, je me suis comme réveillé. L'autre était à terre, j'avais gagné. J'ai jamais su ce que j'ai donné comme coup. J'étais plus là, puis c'était fini. Ouais. Je suis à peu près sûr que c'est un Ineri Zuki que j'ai donné, mais je me souviens même pas.
Moi, je me rappelle, évidemment, ça fait longtemps.
Ouais.
Et puis, à l'époque, quelque chose à mentionner, c'est que je venais d'ouvrir les écoles, et puis j'ai décidé de faire des compétitions de Kushki. Mais on n'avait pas beaucoup de ceinture noire. En fait, on n'en avait pas. Il y avait toi, puis peut-être un autre ou deux à l'époque. Et on commençait. Et puis, j'ai organisé une compétition Kushki. C'était la première fois au Québec, probablement au Canada aussi, qu'il y avait une compétition de Kushki ouverte. C'est-à-dire que c'était ouvert à tous les styles. Fait que c'était encore plus incroyable que tu avais gagné, mais c'était contre... pas juste du Shorinji Ryu, c'était des gens qui venaient de tous les styles, puis je me rappelle de son premier nom, lui qui avait été en là, c'était Yvan, alors Yvan Lamoureux, puis c'était un élève de Richard, puis c'était super bon fighter dans les compétitions non-contact aussi, puis il avait été au Japon aussi en Kushki, puis il avait très bien fait ça, alors un super bon combattant, fait que ça avait été vraiment... un beau combat, enfin, je me rappelle, mais je pense que c'est important de mentionner que quand tu avais gagné contre tous les styles, pas juste un style.
Mais tu vois, vu que j'étais de. Je faisais partie de l'école qui organisait le tournoi, je me suis arrangé pour. Avec les personnes qui disaient contre qui on devait se prendre, c'est les poids lourds, de toute façon, je voulais commencer avec Yvan. J'ai dit, si je passe à travers lui, je vais passer à travers tout le monde. Et effectivement, c'était le premier que j'ai eu comme à affronter. Puis là, je passe à travers. Ben là, j'ai dit, là, je vais être correct pour aller jusqu'au bout.
Bonne stratégie. Mm-hmm. Et puis, si on continue, après ça, bon, là, moi, je suis parti pour les États-Unis en 1990. Et puis toi, tu as continué quand même ton cheminement, tu as créé ton propre petit dojo, si on veut, avec toi puis avec un de tes amis, Michel Brodeur. Alors, puis moi, ben, je trouve ça très très intéressant. Puis, tu sais, je respecte moi tous les... Quand je vois quelqu'un qui fait encore du karaté, qui s'entraîne encore, puis qui pratique encore par amour, pas pour aucune autre raison, mais juste par amour de l'art, c'est correct si je dis ton âge.
Non, 72 ans.
Alors, tu sais, je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour ça. Il y a tellement de gens qui commencent, qui ont beaucoup de potentiel ou sont très bons, mais c'est très rare les gens qui, après 50, 60 ans de karaté, s'entraînent encore. Et puis, moi, je respecte ça beaucoup. Et puis, là, tu parles un peu de t'es rendu... les années qui se sont passées, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ton dojo chez toi?
Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand je veux m'entraîner, je descends les marches, puis j'ai tout le sous-sol dans moi tout seul. Et c'est, je dois dire, c'est là que j'ai travaillé le plus la technique. Là, je finalise beaucoup plus les techniques qu'avant. Peut-être parce que on doit apprendre la croissance, mais la décroissance avec l'âge. Hein. Mais toutes les techniques, il faut qu'elles soient dans ma tête parfaites. J'ai toujours été un perfectionniste, je ne demande pas ça aux autres. Parce que j'ai eu des enfants, je sais ce que c'est, je ne peux pas lui demander la même chose. Mais moi, je suis perfectionniste. Quand je fais quelque chose, j'aime que ça soit bien fait. Et là, j'ai la possibilité de m'entraîner quand je veux. J'ai toutes les armes, on a toutes les protections qu'il faut, on a tout ça. Mais on fait toujours, toutes les fois, toutes les techniques de base. Ça, c'est immuable. Après ça, kata arme. combat beaucoup moins. Parce que, bon, ma femme étant infirmière, elle ne veut pas que je me blesse parce qu'elle est rendue à 72 ans. C'est plus long à guérir un peu. Ça fait que même gagner le combat en bas, je ne gagnerais peut-être pas contre ma femme.
Un autre fait intéressant dans ton dojo ici, c'est que ton élève, Michel Brodeur, était un de mes élèves avant que je parte pour les... qui s'est tourné plusieurs années avec moi. Alors, je trouve ça intéressant que lui aussi, que tu lui as donné, dans le fond, l'opportunité de continuer à pratiquer l'art qu'il aime. Alors, c'est que soit quoi un peu votre entraînement avec Michel quand vous arrivez en bas?
Ben, c'est ça. On commence toujours... Moi, mon échauffement est toujours fait avant que Michel arrive. On commence à 9h30 le matin. Moi, ça fait au moins trois quarts d'heure que j'en fais dans le sol avant. Là. Quand lui arrive, il fait son échauffement, ça ne dure pas longtemps. On fait toutes les techniques de base. Au complet, le mardi, c'est des techniques ordinaires. Le jeudi, c'est avec déplacement. C'est immuable, ça. Après ça, on tombe dans des... Kata, dépendant lequel qu'on veut travailler. Quand ça c'est fait, on tombe avec les armes. Puis le reste, c'est variable. Là, on fait un peu d'autodéfense. Michel aime bien ça, aller sur Internet, voir plein de choses en autodéfense. Il faut que ça reste simple. C'est bien beau des affaires compliquées, mais ça paraît bien dans les démonstrations, c'est tout. En gros, c'est ça. Là.
Super. Ben écoute, je trouve ça merveilleux parce qu'on parle quand même de 69 à... Il faudrait que je fasse un peu de mathématiques, là, mais de 60, on parle de 55 ans. Ça fait que 55 ans d'histoire dans le Shorin Juryu et dans les arts martiaux. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience et puis de continuer. Je te souhaite un autre 50 ans de pratique. Ah. Et puis...
C'est sûr que moi, j'ai pas l'intention d'arrêter. J'aime ça. Ça me force pas. Il y en a qui me disent, oui, mais comment tu fais de t'entraîner? J'aime ça. Parce que les autres journées, je fais du conditionnement physique. Parce que faut que je garde la souplesse, faut que je garde les muscles. Ça, c'est des journées que je fais pas de karaté. Puis il y a des journées où je fais rien parce que mon corps en a besoin aussi, là. Mais en gros, c'est ça. Puis j'aime ça. J'ai toujours aimé ça.
Ouais, écoute, c'était évident. Puis aussi, je pense qu'on n'a pas mentionné, mais que tu étais professeur d'éducation physique alors toute ta vie. Et puis moi, je peux témoigner que souvent, ils vont m'appeler ou on va se voir. Puis il n'arrive pas une journée qu'il n'y a pas une question pour pouvoir, pour pouvoir s'améliorer. Il est toujours ouvert à toutes les suggestions. Fait que je trouve qu'un très bel exemple à donner à tout le monde. Ben, écoute, je te remercie encore.
Ça me fait plaisir.
Et puis, à la prochaine.
Merci.